Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, travailler au temps du Covid-19, partout, pour tous, la crise sanitaire nécessite de repenser la mondialisation. Et dans ce grand bouleversement, la Lituanie pourrait tirer son épingle du jeu en devenant la petite Chine de l'Europe. C'est en tout cas ce qu'espèrent les responsables lituaniens, politiques ou chefs d'entreprise. À la mi-mai, le ministre lituanien des Finances a présenté un grand plan de relance de l'économie. Marielle Vituro.
21 millions d'euros y sont alloués aux investisseurs qui voudraient relocaliser leur production d'Asie en Lituanie. Pour de nombreux analystes, la proposition fait sens. L'économie balte devrait repartir à la hausse dès l'année prochaine. Plus 2% de croissance économique prévue en 2021, d'après les calculs du ministère des Finances. La Lituanie a aussi de l'expérience en la matière. Tout comme les Chinois, elle exporte déjà des équipements médicaux ou des pièces détachées pour le secteur automobile. Une grosse usine de pneumatiques s'est installée en Lituanie il y a peu. Mais si la Lituanie veut attirer les investissements, elle se méfie des investissements chinois. Et sur ce point, Vilnius s'aligne sur les capitales voisines. Après une longue lune de miel avec Pékin, la Pologne, par exemple, a adopté il y a quelques semaines une législation contraignante pour éviter que des capitaux étrangers ne mettent la main sur des activités stratégiques du pays. Depuis quelques années, les services secrets lituaniens relèvent une montée en puissance de la présence de la Chine dans la région, non sans inquiétude. Le pays balte fait partie de l'initiative économique de Pékin en Europe centrale et les Chinois regardent la région et ses infrastructures publiques avec appétit. En 2019, ils auraient souhaité investir dans l'agrandissement du port de Klaipeda, l'un des rares ports gelés en hiver sur la mer Baltique et parfait pour les débouchés de leurs produits venus de Russie. Pas de hâte, avait alors déclaré le président. Aujourd'hui, la crise sanitaire a renforcé encore cette politique prudente à l'égard de Pékin.
Les entreprises qui produisent à l'échelle mondiale réfléchissent à relocaliser leur production vers l'Europe. Léman Industries est un groupe français qui compte 1200 employés à travers le monde. Il réalise des composants et des pièces pour les constructeurs automobiles et les équipementiers. Et il envisage donc de redéployer une partie de sa production en Roumanie, comme nous l'explique Benjamin Ribou.
Le directeur de développement du groupe Léman Industries est roumain. Il s'appelle Gelu Mateescu. Il coordonne aussi les opérations en Europe de l'Est, en Roumanie et en Hongrie. L'idée de relocaliser une partie de la production existe depuis quelques années chez Léman Industries, mais n'a jusque-là encore jamais été appliquée. Principalement, la faute à un manque de compétitivité par rapport à la Chine et à l'Asie. Le coronavirus pourrait bien être le déclic qui change tout, nous explique Gelu Mateescu.
La pandémie a eu pour principal impact de changer la manière de penser. Désormais, on ne raisonne plus seulement en termes de prix, mais aussi en termes de risques. Les sociétés, les donneurs d'ordre veulent réévaluer les risques car ils ont réalisé que l'on était trop dépendant de la Chine et de l'Inde. Ils sont plus que jamais conscients du danger qu'ils encourent si une autre pandémie ou un autre événement de ce genre avait lieu. Ils réalisent l'impact que cela aurait sur leurs activités en Europe. Ils repensent donc tout ça de manière beaucoup plus sérieuse que la manière dont il l'avait fait il y a 3 ans.
Pas facile de mettre un frein à la dépendance chinoise. La Chine a plusieurs avantages, très avancée sur les parties mécanisation et robotisation. Le pays dispose aussi d'une grosse force de frappe en termes d'accès aux matières premières, mais aussi en termes de vente et de distribution. Une concurrence quasi déloyale pour Gelu Mateescu, ce qui ne l'empêche pas de penser qu'un pays comme la Roumanie a une belle opportunité actuellement.
C'est un endroit propice en termes de rapport qualité-prix, de main-d'œuvre, mais aussi, je dirais, en termes d'infrastructure, de milieu économique et d'affaires en général. Même si beaucoup de choses manquent toutefois, notamment en matière de technologie. Sur la partie électronique, par exemple, l'Asie est imbattable. Il faudrait aussi que la Roumanie dispose d'une stratégie à l'échelle nationale et que tout le monde avance dans la même direction. Le milieu d'affaires ne peut pas s'en sortir tout seul.
Léman Industries a d'ores et déjà validé un projet avec un nouveau client, remportant le marché face à un concurrent asiatique. Un premier pas encourageant pour Jelu Mateescu, mais une tendance vers des relocalisations en Europe devrait prendre du temps à se concrétiser. C'est ce que nous confirme Yonuts Dumitru, économiste en chef chez la Raiffeisen Bank et ancien président du conseil fiscal roumain.
Ça n'est pas un processus sur du court terme, car ce n'est pas si facile de faire déplacer ses fournisseurs du jour au lendemain. C'est plus une décision de business sur du moyen et long terme pour de nombreuses sociétés. Cependant, on a bien vu pendant la crise que le fait d'avoir des fournisseurs très loin accentuait la vulnérabilité et qu'une cassure de la chaîne d'approvisionnement créait là aussi de gros problèmes. On s'attend ainsi dans ce contexte à ce que les multinationales essaient de raccourcir ces chaînes de production et essaient de rapprocher leurs fournisseurs.
Si la Roumanie a ainsi son mot à dire dans ce rebattement des cartes et ce rapprochement vers l'Europe, nul doute qu'elle sera en concurrence avec d'autres pays, notamment tout près en Europe centrale et orientale.
En France, on a redécouvert qu'on avait encore une industrie textile qui a confectionné en urgence des masques en tissu pendant l'épidémie. Le textile a perdu plus de la moitié de sa production en 20 ans, les deux tiers de ses effectifs. Mais beaucoup d'industriels sont persuadés qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Selon l'Union des industries textiles, cette crise pourrait bien accélérer et conforter une timide tendance de ces dernières années, la réindustrialisation et la montée en puissance du Made in France, Lise Verbeek.
La filière a fait ses preuves durant la crise et s'est mobilisée en urgence pour pallier le manque de masques. C'est le cas d'entreprises dans le Nord, bastion historique de l'industrie textile. À Roubaix, on a renoué avec le passé grâce au projet Résilience lancé par le gouvernement. Cette opération rassemble les PME du textile et les entreprises d'insertion. Ainsi, des ateliers ont été créés dans la ville. Le bruit des machines à coudre a de nouveau résonné dans des bâtiments oubliés. Et dans toute la France, ce sont des dizaines d'ateliers de ce type qui se sont créés en employant notamment des personnes éloignées de l'emploi. Des masques made in France donc, et forcément cela a un coût. Et c'est aussi là que le bât blesse. Ils sont 4 à 5 fois plus chers que les masques importés et les industriels se retrouvent déjà avec des millions d'invendus. Du jour au lendemain, les commandes se sont arrêtées. Alors la filière est montée au créneau. Le ministère de l'économie a lancé une mission pour faire comprendre au grand public, mais aussi aux entreprises et aux collectivités locales, que ces masques sont de meilleure qualité et écologiques pour les inciter à en acheter. Au-delà des masques, l'Union des industries textiles attend également du gouvernement une stratégie de relocalisation et de soutien de la filière. Les industriels savent que c'est le moment de profiter de cette dynamique en mettant en avant leur savoir-faire face à des consommateurs qui se tournent davantage vers le Made in France.
Leurs conditions de travail étaient très difficiles avant la crise sanitaire. Pas certain que leur situation s'améliore aujourd'hui. Dans les mines de chrome de Bulshiz, dans le centre de l'Albanie, des hommes risquent leur vie sous terre pour quelques centaines d'euros par mois. Plusieurs mineurs ont été licenciés après avoir tenté de créer un syndicat indépendant par la compagnie Alpchrome, propriété d'un des plus riches oligarques d'Albanie. C'est un reportage de Laurent Gélin.
Ces derniers temps, on trouve souvent Elton Debréchy dans le petit bureau du tout nouveau syndicat des mineurs unis dont il est le président. À travers les vitres, on aperçoit les montagnes du centre de l'Albanie qui étendent leur ombre sur les immeubles communistes de la cité minière. Père de 4 enfants, Elton Debréchy est réduit au chômage forcé après avoir été renvoyé en novembre dernier de la société Alb Chrome qui exploite les principales mines de chrome de la région. Officiellement, son licenciement serait causé par des violations du règlement intérieur de l'entreprise, mais l'employé a une toute autre explication.
Après l'enregistrement officiel du syndicat, nous avons organisé un vaste rassemblement dans le centre de la ville. Une grande partie de la population est venue nous soutenir, et 5 jours plus tard, j'ai été renvoyé. Mais la vengeance de l'entreprise ne s'est pas arrêtée là. Le trésorier de notre association a été licencié, tout comme 2 autres membres du syndicat. Et plus de 20 mineurs ont reçu des appels des bureaux de la société à Tirana qui leur expliquaient qu'ils seraient renvoyés s'ils ne quittaient pas le syndicat.
Le chrome est exploité dans la région de Bulshiz depuis la Seconde Guerre mondiale. Albchrome, l'entreprise publique qui exploitait le gisement durant la période communiste, a été cédée en concession, d'abord à des compagnies étrangères, puis elle a été reprise voici 4 ans par Samir Mane, l'oligarque le plus riche d'Albanie. Depuis, les accidents se sont multipliés, 8 ouvriers sont morts au fond des puits, et une quarantaine ont été blessés depuis 2013.
Les hommes travaillent 8 heures d'affilée et 3 équipes se relaient tous les jours. Les normes de production sont en constante augmentation. En 2013, nous devions extraire 40 000 tonnes de chrome par an contre 90 000 aujourd'hui.
Alors qu'il existait déjà un syndicat maison, plus attentif aux ordres de la direction qu'aux aspirations des mineurs, ceux-ci ont décidé de former une nouvelle organisation syndicale pour exiger de meilleures conditions de sécurité et une revalorisation de leur salaire, qui plafonne à environ 400 euros par mois. Malgré 30 ans de bons et loyaux services, Bechir Duriçi, le trésorier du nouveau syndicat, a lui aussi été renvoyé.
D'année en année, les salaires ont été réduits de 20% et les normes de production ont explosé. Les syndicats traditionnels ne réagissent pas. Quand nous essayons de parler à leurs représentants ou directement à l'entreprise, personne ne nous répond. C'est pourquoi nous avons décidé de créer un nouveau syndicat. Nous avons eu beaucoup de soutien des habitants de la ville car tout le monde à Bouchiz comprend que le seul moyen de vivre ici, c'est la mine. Si le syndicat gagne, la vie sera meilleure à Bouchiz.
En attendant, les mineurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes et espérer que l'écho de leur mobilisation se diffuse sur les réseaux sociaux. Les médias albanais, pour la plupart sous le contrôle d'hommes d'affaires proches du pouvoir, ont pratiqué le blackout sur les événements qui agitent la petite ville de Bouchiz. Seuls les militants d'un petit groupe de gauche, Organizata Politique, déjà très actifs durant les mobilisations étudiantes de l'hiver 2018, sont venus apporter leur soutien. Franklin, tout juste 21 ans, aide les mineurs à s'organiser.
Les mineurs nous ont approchés. Depuis sa création, l'une des priorités d'Organizata Politique est la défense des droits des travailleurs. Donc quand les mineurs nous ont contactés, nous sommes venus à Bouchiz pour les aider sur les aspects légaux de la création du syndicat. Nous pensons que créer de nouveaux syndicats indépendants et démocratiques va amener un changement en Albanie, pas seulement dans le monde du travail, mais au sein de la société dans son ensemble.
Franklin et ses camarades mènent depuis des actions coup de poing, peignant des slogans hostiles au gouvernement et à Samir Mane sur les murs de la capitale Tirana et sur ceux des autres grandes villes du pays. Une publicité dont le propriétaire de la mine se serait bien passé. Le 28 décembre dernier, Franklin a été arrêté dans un centre commercial appartenant à l'oligarque alors qu'il distribuait des flyers appelant au boycott du magasin.
Après que nous ayons distribué les flyers, la sécurité du centre commercial est arrivée, on nous a amenés dans une pièce et on nous a battus. Nous avons été transférés au commissariat et accusés de susciter la panique et de mettre en danger l'ordre public.
Pour l'heure, les mineurs licenciés ont porté leur cas devant la justice albanaise, sans beaucoup d'illusions sur l'indépendance de cette dernière. Mais ils veulent croire que la mobilisation qui s'organise finira par faire plier la direction de l'entreprise et que leurs enfants auront peut-être un jour de meilleures conditions de vie.
Ce dimanche, c'est la fête de la musique. La musique, un compagnon indispensable pendant les mois de la crise sanitaire. Aux Pays-Bas, c'est la chanson néerlandophone qui ravit les cœurs. C'est un reportage d'Antoine Moutot.
Tu m'apportes l'amour et effaces tous mes soucis. Ces paroles, ce sont celles d'une des innombrables chansons néerlandophones qui passent tous les jours sur les ondes de 100% NL, 100% néerlandais. Depuis Naarden, dans le centre du pays, dans une vieille et somptueuse ferme au toit de chaume reconvertie en station de radio, Barry Paf est en pleine émission.
Et applaudissons maintenant encore une fois tout le personnel médical. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, il est 9h02.
100% NL, Barry Paf Show, Barry Paf.
Tous les jours de 6h à 10h, Barry Paf anime l'une des émissions phares de la radio. Ce matin, en raison de la crise du Covid-19, il rend hommage au personnel hospitalier du pays. Au programme, très peu de tubes américains, ici ce sont la plupart du temps les auditeurs qui choisissent les chansons.
On vient d'entendre Alibi et DJ Dex et leur titre Je ne pleure qu'à tes côtés, à la demande spéciale de Janine qui nous a contacté sur l'application 100% NL. Et maintenant écoutons Ian Smith.
Selon Barry Paff, jusqu'au début de la pandémie du Covid-19, la musique néerlandaise ne s'était jamais aussi bien portée.
La musique néerlandaise est vraiment très importante pour nos auditeurs. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils écoutent notre radio 100% NL. Les Pays-Bas comptent de très nombreux artistes et la qualité de leur musique est de plus en plus importante. Il y a encore 10 ans, la musique néerlandaise, c'était plutôt pour les cafés, mais maintenant c'est tellement apprécié que les gens sont prêts à en écouter toute la journée.
Seulement voilà, comme un peu partout dans le monde, avec les concerts et festivals annulés, le secteur musical du pays souffre énormément. Face à ce marasme, il y a quelques semaines, l'Organisation néerlandaise des droits d'auteur a appelé les radios à diffuser le maximum possible de musique nationale. Une initiative bien reçue par le secteur, comme en témoigne Barry Paff.
C'est une très bonne idée car il y a beaucoup de radios qui passent en boucle des titres américains et anglais. Ici, on fait un peu autrement. Ça fait longtemps qu'on soutient des artistes néerlandais. Mais en ces temps de coronavirus, il est encore plus important que d'habitude de le faire car les artistes ne peuvent pas se produire en concert. Leur seule source de revenus, c'est leur musique qui passe par les médias ou encore les concerts en ligne.
À quelques kilomètres de là, dans le Media Park à Hilversum, la radio publique NPO chante elle aussi de plus en plus en néerlandais, comme ici sur les ondes de la station pour jeunes 3 FM.
Ik hou van Holland, ik hou van Snelle.
J'aime les Pays-Bas, j'aime Snelle, encore un produit national sur votre radio, vous êtes sur 3 FM.
Dit is 3 FM.
Jure Bousman est directeur des programmes de la radio.
Dès le début de la crise du Covid-19, nous nous sommes bien sûr rendus compte que de très nombreux secteurs souffrent. Et les artistes néerlandais ne sont pas épargnés. Ils ne peuvent plus produire sur scène et perdent une grande partie de leurs revenus. Donc nous avons décidé d'agir en passant leurs titres plus souvent que d'habitude et en faisant en sorte qu'ils puissent au moins se produire à la radio.
Pour soutenir le secteur, de nombreuses radios ont également décidé d'organiser en ligne les grands festivals annulés de cet été. Mais pour certains aux Pays-Bas, l'attente est trop longue. Il y a quelques jours, Douwe Bob, chanteur et ancien candidat de l'Eurovision, a fait parler de lui sur la petite île de Terschelling, dans le nord du pays, devant quelques dizaines de personnes, armé d'une simple guitare. Il a improvisé un concert avant d'être interrompu par des agents de police qui lui ont remis une amende.
Nous, on va fêter la musique en compagnie de Vincent Teval, musique italienne, Vincent, avec Andrea Laszlo De Simone.
Avec sa moustache et ses cheveux en liberté, l'italien Andrea Laszlo De Simone semble tout droit sorti des années 70, ce que ne dément pas vraiment sa musique, une pop romantique et opulente, portée par des arrangements de cordes étourdissants. Pourtant, Andrea Laszlo De Simone est notre parfait contemporain, il a 34 ans, est originaire du Piémont et a publié en mars un mini-album somptueux, la suite d'un parcours entamé en 2012 avec un premier disque suivi en 2017 d'un second, Uomo Donna, qui a porté la réputation de l'italien bien au-delà des frontières de son pays, traversé par des interrogations métaphysiques et poétiques, Immensità est un petit coup de maître.
La notte è giunta per noi. È la nostra fine. È la nostra fine.
La nostra fine. Extrait d'Immensità d'Andrea Laszlo De Simone. Accent d'Europe. À la réalisation, Laurie Plisson. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur rfi.fr ou vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.